السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجرني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، on est toujours au préparatif de la bataille de Uhud. Donc on a expliqué en termes de contexte qu'on est à la troisième année de l'Hégire, troisième année de l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, Al-Madina, et qu'il y a eu une série d'expéditions entre la bataille de Badr et la bataille de Uhud. Il y a exactement un an qui sépare la bataille de Badr de la bataille de Uhud. Et entre la bataille de Badr et de Uhud, il y a eu plusieurs événements, des expéditions, des mariages. On était revenu sur chacune d'entre elles. La dernière expédition qui va terminer d'achever les préparatifs de Uhud et qui va faire prendre conscience aux idolâtres qu'ils doivent se précipiter dans la préparation de la revanche, c'est l'expédition de Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoie pour intercepter la caravane d'été, Rihlat al-Sayf, qui a essayé de détourner le chemin et de passer par l'Irak. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie 450 hommes. À la tête de ces 450 hommes, il y a le compagnon Zayd ibn Haritha qui arrive à intercepter la caravane et même à prendre possession de la caravane. Et donc c'est un échec cuisant pour les idolâtres, puisque non seulement ils ont perdu la route commerciale qui passe par l'ouest de Médine, c'était celle qu'ils empruntaient habituellement, là ils n'ont plus accès à cette route. Et maintenant, ils ont essayé de trouver un détour par l'est, et par là aussi, ils n'ont plus accès à cette route. Et en plus de ne plus avoir accès à cette route, ils ont perdu la caravane d'été, dont les richesses sont estimées à 100 000 dinars, 100 000 pièces d'or. Donc, les idolâtres décident de rassembler les hommes, de rassembler leurs forces dans la bataille, dans la revanche. Le plan, le projet, c'est de prendre le plus d'hommes aguerris, le plus de combattants préparés pour mettre un terme définitif à ce qu'ils appellent l'hérésie. L'islam, ils le considèrent, eux, comme une hérésie. Et donc, pour ce faire, ils vont faire appel à leurs émissaires, à leurs diplomates, comme Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, et aussi à des poètes comme Abu Azza, Amr ibn Abdillah al-Jumahi, qui avait été fait prisonnier à la bataille de Badr et qui avait promis qu'il ne ferait plus jamais de tort avec sa langue aux musulmans. Et pourtant, il se réengage dans la bataille de Uhud et il va faire sa propagande auprès des tribus des Bani Kinana. Quant au poète Musafir ibn Abdi Manaf, lui, il est envoyé auprès des Bani Malik ibn Kinana pour les mobiliser dans cette revanche de Uhud. Tout comme on mobilise également et on incite à être mobilisés également les, ce qu'on appelle Ahabish, Ahabish ou Quraysh, et les tribus de Tihama. Al-Muhim, les idolâtres, arrivent, comme on l'a dit la fois dernière, à rassembler, à mobiliser une armée de 3000 hommes. 3000 hommes. Parmi ces 3000 hommes, il y a une cavalerie de 200 hommes, 200 cavaliers. Donc 200 hommes qui sont sur des chevaux. C'est ça que ça veut dire une cavalerie. Et des chevaux qui sont entraînés pour la guerre. Et ce qu'on redoutait le plus à l'époque dans les corps à corps, c'était la cavalerie. Une armée pouvait être en train de perdre la guerre et on gardait la cavalerie toujours de côté, comme ça va être fait à Uhud. On la gardait de côté. Dans le cas où on commence à perdre la guerre, on envoie la cavalerie pour donner du répit à ceux qui sont à pied et faire fuir les ennemis d'en face. Donc il y a une cavalerie de 200 hommes qui sont séparés en deux régiments, deux brigades de 100 cavaliers, 100 cavaliers. Une tenue par Khalid ibn al-Walid et l'autre tenue par Ikrimah ibn Abi Jahl. Il y a, dans cette armée de 3000 hommes, 700 boucliers et armures. Ala kulli hal, on avait expliqué la fois dernière également que l'oncle du prophète, qui cache son islam et qui vit à la Mecque, il voit tout ça. Dès que l'armée des Mécois sort pour aller vers Médine, il envoie un messager secret au prophète Mohammed avec une lettre et il lui demande d'arriver le plus vite possible à Médine. Puisque les idolâtres ont comme plan et projet d'arriver à Médine et de raser la ville. Ils ont comme projet de raser la ville parce que pour eux, pour mettre un terme à ce qu'ils appellent l'hérésie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a qu'une solution, c'est raser la ville, la mettre à sac et tuer toute personne qui se trouve à Médine. Le messager de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib va mettre 3 jours pour arriver à Médine. Au moment où il arrive à Médine, on lui dit qu'il est à Quba. Donc en fait, il passe par Quba. Pour arriver à Médine, on passe d'abord par Quba. Et on lui dit que le professeur Hassam est à Quba. Il demande à voir le professeur Hassam l'accueille. Il lui dit, j'ai un message secret de ton oncle, et urgent de ton oncle, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib. Il appelle son compagnon Ubay ibn Ka'b pour lui lire la lettre. Et il lit dans la lettre donc, l'armée des 3000 hommes, 200 cavaliers, etc., etc. Et ils sont sortis au moment où j'ai envoyé ce messager. L'Abbas il lui dit, ils sont sortis au moment où j'ai envoyé ce messager. Donc demande au messager, il a mis combien de temps pour arriver à toi? Et ça voudra dire que ça fait autant de temps que cette armée est sortie. Donc ils sont en chemin. Le professeur Hassim demande au messager, ça fait combien de temps? Il lui dit, moi ça fait 3 jours, j'ai mis 3 jours. Et une armée de 3000 hommes, il lui faudra, si vraiment ils vont très vite, une semaine. S'ils prennent leur temps, 10 jours, 12 jours, pour faire cette traversée de plus de 500 km entre Mecca et Médina. À 3000 hommes, ce n'est pas facile à déplacer avec les chameaux, les montures, la nourriture, etc. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est tout seul, qui prend sa monture et qui part à toute vitesse. Donc le professeur sallam envoie immédiatement des éclaireurs pour surveiller cette armée et voir par où elle passe et vers où elle se dirige. Est-ce que ce que l'Abbas ibn Abd al-Muttalib lui a dit est confirmé ou pas? Le professeur sallam, il se dit peut-être qu'ils ont fait croire ça, mais qu'au final, ils vont changer les plans à la dernière minute. Il y en a comme on dit, al-harbu khuda, la guerre n'est que tromperie. On essaie de faire croire des choses, on donne des indices pour faire croire des choses à l'ennemi, pour qu'il croit qu'on va le frapper là, et en fait, on le frappe là. C'est ça la guerre. Ala kulli hal, le professeur Hassan, les premières mesures qu'il prend, c'est qu'il envoie des éclaireurs pour surveiller cette armée. Il demande à Ubay ibn Ka'b de garder le silence et il rentre immédiatement à Médine. D'habitude, il restait toute la journée du samedi à Quba, tous les samedis il allait à Quba, et là il rentre immédiatement à Médine et il réunit les leaders, les chefs parmi les compagnons de Médine, l'Ansar, et les compagnons de la Mecque, le Muhajir. Et il leur explique, voilà la lettre que j'ai reçue, que devons-nous faire ? Dans un premier temps, comme nous ne savons pas exactement où cette armée est arrivée, peut-être qu'ils sont aux portes de la ville, sait-on jamais, ou peut-être que comme ces 3000 hommes, ils ne vont pas être aux portes de la ville, il va leur falloir du temps, mais on sait qu'ils ont 200 cavaliers, peut-être qu'ils ont envoyé les cavaliers devant, et qu'eux, ils vont bientôt arriver à la ville avant les autres, et qu'eux vont nous attaquer par surprise. Donc, le prophète sallam décrète la mobilisation générale, tout le monde est mobilisé, et il décrète l'état d'alerte maximum. En tout cas, ce qu'on pourrait comparer à l'état d'alerte maximum de nos jours. C'est-à-dire qu'il envoie plusieurs groupes de combattants aux portes de la ville, en périphérie, pour protéger les portes et par où on pourrait rentrer dans la ville. Dans chaque quartier, la défense s'organise. Des hommes se relaient nuit et jour pour surveiller la ville et surveiller s'il y a des gens qui viennent et qui sont étrangers, d'où viennent-ils, etc. Chaque homme qui est en âge de combattre, il prend ses armes avec lui. D'habitude, quand on est en période de paix, on ne va pas forcément prendre son épée avec. Et là, tout le monde prend ses armes au cas où, en attendant d'avoir plus d'informations. Pendant ce temps-là, l'armée des idolâtres continue son chemin. L'armée des idolâtres continue son chemin et les éclaireurs du professeur Hassan les retrouvent. Et donc, ils les surveillent au loin. Et ils le comprennent par le chemin qui est pris par cette armée. Ils comprennent que le plan, le projet initial est bien celui qu'ils essayent de mettre en application. Ils se dirigent droit vers Médine, doucement mais sûrement. L'armée ne s'est pas séparée, donc tout le monde est là. Il n'y a pas les cavaliers qui sont partis en premier ou quoi. Donc ça, c'est plus ou moins rassurant. Ça laisse un certain laps de temps au professeur Salem et aux compagnons de Médine pour se préparer. Et donc, les éclaireurs informent le professeur Salem. Le professeur Salem leur demande de retourner, de continuer à surveiller cette armée, de voir où est le dernier endroit, de revenir et de l'informer du dernier endroit où ils camperont avant d'arriver à Médine. Pour savoir, le professeur Hassan veut savoir par où il compte rentrer dans Médine. Par le sud, par le nord, par l'est, par l'ouest. Le professeur Hassan a besoin de cette information pour savoir comment il va préparer la défense de la ville. Et les éclaireurs voient que cette armée commence à camper à un endroit qui s'appelle Aïnaïn. Aïnaïn, c'est un endroit qui est proche de Médine. Il faut encore à peu près une journée de marche pour arriver à Médine quand on est à Aïnaïn. Donc c'est le dernier endroit où ils campent avant d'arriver à Médine. Aïnaïn est proche. C'est par là qu'on passe quand on va rentrer à Médine par la montagne de Uhud. C'est par là qu'on passe quand on va rentrer à Médine par la porte de Uhud, la montagne de Uhud. Donc les éclaireurs informent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui disent ils sont arrivés à Aïnaïn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait qu'ils vont rester un certain temps à Aïnaïn. Pourquoi ils vont rester un certain temps? D'abord, ils vont s'assurer que toute l'armée arrive. C'est une armée de 3000 hommes. Il y en a qui ont pris du retard, il y a des groupes qui se sont séparés, etc. Il ne faut pas vous imaginer qu'il y a 3000 d'un coup tous ensemble qui sont bien rangés et qui avancent tous ensemble. Non. Ils sont sortis les uns après les autres, etc. Et donc, ils ont rendez-vous à Aïnaïn. Et ils attendent, ça va prendre du temps d'attendre que tout le monde arrive, qu'ils se rassemblent tous. Ensuite, ça va aussi, qu'est-ce qui va prendre du temps également? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils vont se décider. Comment ils vont attaquer la ville exactement? Ils vont peaufiner leur plan d'attaque. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, il réunit ses compagnons. Et leur dit, vous savez à présent ce qu'il se passe, vous avez tous été informés, et nous savons que la lettre secrète qui nous avait été envoyée par l'Abbas, les informations qu'il nous envoyait ont été confirmées par les éclaireurs. Et donc il faut vous rappeler que quand le professeur Hassam réunit les compagnons de Médine, il réunit les gens, les habitants de Médine, on va dire, il y a dedans les compagnons de Médine, il y a dedans les compagnons de la Mecque qui se sont réfugiés à Médine, et il y a dedans ceux qu'on a appelés après la bataille de Badr, al-munafiqoun, les hypocrites, ceux qui font semblant d'être musulmans et qui en réalité rusent contre l'islam et contre le professeur sallam et sont des ennemis de l'islam. Ils ne sont convertis à l'islam en apparence que pour mieux attaquer les musulmans et l'islam de l'intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire voilà ce qui se passe. L'armée des idolâtres est une armée d'à peu près 3000 hommes. Il y a dedans 200 cavaliers. Des cavaliers, si on était comme à Badr par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, si on était à Badr, dans une plaine, dans le désert, face à face, nous on n'a pas autant de cavaliers pour leur faire face. Donc pour cette première raison, mon avis, le professeur Hassan dit, mon avis, c'est que nous restons dans la ville. Et quand ils rentreront dans la ville, les cavaliers ne leur serviront à rien. Les cavaliers, ils servent à quelque chose quand ils peuvent, comment dire, en langage familier, les jeunes, quand ils courent, ils disent quoi ? Taper une pointe, hier. Ben c'est ça. Une accélération dans la ville avec les chevaux, ce n'est pas possible. Et même s'ils arrivent à accélérer, ça va leur servir à quoi ? Les gens, ils peuvent se cacher dans les maisons, dans les bâtiments, etc., sur les terrasses. La cavalerie ne va leur servir à rien dans la ville. Donc, je pense qu'il est mieux, le professeur Hassan me dit, je pense qu'il est mieux qu'on reste dans la ville, à l'intérieur de la ville, pour la protéger. Il y en a qu'on se prépare à un siège. Et également, c'est une armée de 3000 hommes. Ils sont extrêmement nombreux. Et faire face à 3000 hommes dans le désert, c'est plus dangereux que faire face à ces 3000 hommes dans notre ville. Ils ne connaissent pas la ville, nous on la connaît, c'est chez nous. Et on peut leur tendre des embuscades et des pièges à l'intérieur de la ville. Et ici, la plupart des compagnons, radiallahu anhum, vont recommander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam autre chose. Ils vont dire, et en particulier, les compagnons qui ont quelque chose en travers de la gorge. C'est lesquels ? Ce sont ceux qui n'ont pas participé à la bataille de Badr. Vous vous rappelez que la bataille de Badr, elle n'avait pas été prévue à l'avance. Quand le professeur Hassam est sorti, c'était juste pour intercepter la caravane d'Abou Soufiane. Et finalement, comme la caravane d'Abou Soufiane était menacée, les idolâtres de la Mecque ont envoyé une armée de 1 millier d'hommes. Et donc, ils se sont retrouvés, les 300 et quelques compagnons, à devoir combattre une armée d'un millier d'hommes alors que ce n'était pas prévu à Badr. Eux, ils étaient juste venus intercepter la caravane d'Abou Soufiane qui était protégée uniquement par à peu près 30 à 40 hommes selon les versions. Et donc, quand les compagnons de Médine, qui n'ont pas assisté à la bataille de Badr, ont su que ça a été une grande bataille, que c'était la bataille de Badr, etc., ils l'ont regretté. Ils ont dit, si on avait su, on serait venu avec toi. Et donc, ils ont l'impression qu'ils doivent quelque chose, qu'il leur manque quelque chose. Et donc, eux, ils vont dire, « Ya Rasulallah, kunna natamanna hadha al-yawm. Nous espérions qu'enfin que ce jour arrive. Le jour où ils vont vouloir prendre leur revanche de Badr et qu'on va se retrouver face à face à eux. Les gens qui étaient absents à Badr, ils sont nombreux. Ils vont dire « Kunna natamanna hadha al-yawm. Nous espérions que ce jour arrive. Wa kunna nad'u Allah lahu. Et nous invoquions tous les jours, nous invoquions Allah pour que ce jour arrive. Fasaqahu Allah ilayna. Et enfin Allah nous a enfin ramené ce jour. Fakhruj ila a'da'ina. Alors sors avec nous chez ses ennemis. ولا يرون ان باقامتنا في المدينه جبنا عنهم et qu'il ne croit pas, si on prend la décision de rester ici et de se protéger dans la ville, que nous sommes devenus lâches et qu'ils nous font peur. Il faut qu'ils voient qui on est. On va leur montrer qui on est. Ah. Et donc la plupart des compagnons, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, ils ont raison. Le fait de rester dans la ville, ça permettrait peut-être de mieux protéger la ville, certes, mais ça mettrait en danger les femmes, les enfants, etc. Puisque c'est ici qu'il y a les femmes et les enfants. À l'extérieur, si on perd, c'est nous qui perdons. Si on meurt, c'est nous qui mourrons. Nos femmes et nos enfants resteront dans la ville. Donc la meilleure façon de protéger, c'est de sortir, selon leur interprétation de la situation. Et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, et en plus, rester dans la ville, ça va leur faire penser, ça va leur remonter le moral, parce qu'ils vont se dire, s'ils s'assiègent, s'ils se protègent dans la ville, c'est qu'ils ont peur de sortir à nous. Et donc, ça va leur donner encore plus de force, plus de tonus pour nous combattre. Alors que s'ils voient qu'on sort à eux, ils vont avoir peur, peut-être qu'ils vont fuir, peut-être que ça va leur faire baisser le moral. Comme ce qui s'est passé à Badr. On était moins nombreux et pourtant on a gagné la bataille. Pourquoi ? Parce qu'on leur a montré qu'on n'avait pas peur. Comme l'avait dit l'expert militaire. Quand il avait fait le tour de l'armée, il a dit, je ne comprends pas, ils sont trois fois moins que nous, mais attendez, peut-être qu'il y en a d'autres qui se cachent. Ce sont des renforts qui se cachent ou ils ont préparé des pièges ailleurs, je vais aller vérifier. Et il est parti vérifier, il est revenu, il a dit, il n'y a rien. Aucun piège, aucun renfort qui se cache, il y a juste ceux qui sont en face de vous. Et Abu Jahl, il va dire, innama hum akalatu jazur. C'est une bouchée de pain. On va en faire une bouchée de pain. On est trois fois plus nombreux. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire, cet expert militaire ? Il va dire, certes, j'ai rien trouvé. Hein. Il n'y a pas de renfort, pas de piège. Ceux qu'on doit combattre, ils sont là. Mais moi, ce que je vois les chamelles de Médine qui transportent sur leur dos la mort certaine. C'est-à-dire, tous ces gens-là en face de vous, ils vont mourir. Les chamelles de Médine n'ont pas transporté des combattants, ils ont transporté des morts. Et les premiers à le savoir, ce sont eux. Ils savent qu'ils sont trois fois moins nombreux, pourtant ils sont là, ils attendent. Donc il va leur dire, pourquoi ils attendent ? Parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Et ça ne leur pose pas de problème de mourir. Par contre, s'ils sont là avec autant de fermeté, c'est qu'ils veulent mourir, mais avant de mourir, ils vont en tuer au moins un. Chacun, il va faire en sorte d'en tuer au moins un d'entre nous avant d'être tué. Et s'ils arrivent, chacun d'entre eux, à en tuer au moins un d'entre nous, ça voudra dire quoi ? Ça veut dire qu'on va gagner, parce qu'on va tous les tuer. Mais qu'on va retourner à la Mecque avec 300 hommes en moins, puisque eux, ils sont 300. Et franchement, quelle saveur aura cette victoire si on retourne à la Mecque pour informer les femmes, les enfants, les familles ? Qu'on a gagné la bataille, mais vous avez tous perdu quelqu'un ou plusieurs personnes. Et donc c'est là qu'il y aura la dissension et la division entre les chefs idolâtres, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on ne reste pas, à la Kulihal. Et donc ça a créé le doute chez les idolâtres à la bataille de Badr, et ce n'est pas la seule chose, mais c'est une des causes qui a contribué à la défaite des idolâtres à Badr. Et donc les compagnons de Médine veulent reproduire encore une fois ça. Mais le professeur Hassan n'est pas à l'aise avec cette idée. Lui, le professeur Hassan, il préférerait rester à Médine. Il pense que c'est plus sûr et c'est donner plus de chance à la victoire. Il dit, ils sont venus de loin, 3000 hommes. Il faut les nourrir. Donc s'ils nous assiègent et que nous, on protège la ville, au bout d'un moment, ils n'auront plus de vivres. Nous, on est à l'intérieur, on a des réserves, on a nos champs, on a ce qu'il faut pour tenir longtemps. Et on est protégé par les murs. Alors il redemande, qu'en pensez-vous ? Pourquoi ? Parce qu'il veut être soutenu, il veut voir qui va le soutenir dans cette idée. Il pourra ensuite prendre sa décision. Sa décision, elle n'est pas encore prise. Et là, un homme va prendre la parole. Il va dire, moi, je veux bien donner mon avis. Cet homme, c'est le chef des hypocrites. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et dans les versions historiques qu'on nous rapporte, on nous dit qu'une minorité de compagnons étaient de l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là. Mais on ne nous rapporte pas de nom, on ne nous rapporte pas de propos. Le seul dont on nous rapporte ce qu'il a dit, c'est le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Il va dire, « Ya Rasulallah, aqim bil madinati wa la takhruj ilayhim. » Ô messager d'Allah, reste à Médine et ne sors pas vers les ennemis. Wa la takhruj ilayhim. Fa wallahi, ma kharajna min al-madinati ila aduwin qat illa asaba minna wa ma dakhala alayna illa asabna minna. Je jure par Allah qu'avant, l'année avant que le prophète sallam arrive à Médine, on a eu des guerres. Et à chaque fois qu'on est sorti de la ville de Médine pour aller à la rencontre de l'ennemi, c'est eux qui arrivent à avoir le dessus sur nous. Et à chaque fois qu'on les a laissés nous attaquer ici à l'intérieur de la ville, c'est nous qui avons le dessus, qui avions le dessus sur eux. Fada'hum, alors laisse-les. Fa'in aqamu makanahum aqamu bi sharri majlisin. Laisse-les. Et s'ils restent là où ils sont, là où ils ont campé à Aïnaïn, et qu'ils n'osent pas aller plus loin, qu'ils attendent qu'on sorte et qu'on ne sort pas nous, eh bien, ils vont rester à cet endroit-là. Il n'y aura pas, de bataille et tout ira bien. Ils seront dans un mauvais endroit pour eux et ils finiront par rentrer chez eux. Ils ne pourront pas rester là indéfiniment. وَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا. Et s'ils osent rentrer dans Médine, قَاتَلَهُمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ. Les hommes, les vrais hommes, il ne parle pas de lui, il parle des autres, les compagnons. Vous allez comprendre lui pourquoi il dit ça. Il ne parle pas de lui. Et les hommes, ils vont les combattre face à face dans la ville. وَرَمَاهُمُ النِّسَاءُ وَالصِّبِيَانُ بِالْحِجَارَةِ مِنْ فَوْقِهِمْ. Et même les femmes et les enfants se mettront sur les toits, sur les terrasses, et ils les lapideront avec les pierres et les rochers. Ils les frapperont par-dessus. Les hommes face à face et les hommes et les enfants par-dessus. Comment ils pourront nous combattre? Comment ils pourront nous vaincre? Tout le monde mettra la main à la pâte. وَإِنْ رَجَعُوا رَجَعُوا خَائِبِينَ كَمَا جَعُوا. Et s'ils décident de repartir, ils repartiront aussi affligés qu'ils ne sont venus. Donc c'est une certaine cohérence, ce que l'hypocrite dit ici. Reste dans la ville. D'abord par expérience, parce que nous avant, quand on combattait nos ennemis et qu'on allait à leur rencontre à l'extérieur, c'est eux qui gagnaient. Et quand c'est ici que ça se fait, c'est nous qui gagnons. Et de toute façon, si on reste dans la ville, mettons-nous à leur place, ils auront trois options. Soit ils restent dans leur endroit jusqu'à ce que, en espérant que ce soit nous qui sortions à eux, mais on ne sortira pas à eux, donc ils vont désespérer, ils vont commencer à perdre le moral, etc. Soit deuxième option, ils vont décider de rentrer dans la ville de Médine, d'attaquer la ville de Médine, comme ça a été leur projet initial, mais à ce moment-là, les hommes seront là pour les combattre, et les femmes et les enfants par-dessus les toits leur jetteront les rochers, etc. Il y aura des pièges, des embuscades, bref. Qu'on saura se défendre. Et troisième option, c'est que finalement, comme nous, on ne sort pas à eux et qu'ils ne rentreront pas, ils décideront de rentrer chez eux. Eh bien, ils rentreront en ayant l'échec, en étant affligés, comme ils sont venus avec leur échec de Badr et en étant affligés. Ici, évidemment, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, même si ça... Ça parle ce qu'il dit, c'est un bon argument, c'est cohérent. Sauf que, lui, il dit ça pourquoi? Parce qu'il ne veut pas combattre. Lui, les hypocrites ne veulent pas combattre. Et si le personne décide de sortir, soit il sort avec eux et il sera bien obligé de combattre alors qu'il ne le veut pas, soit il assume devant tout le monde qu'il est un hypocrite et qu'il dit « Ah, moi, débrouillez-vous, moi, je ne... » Moi, je ne sors pas combattre avec vous. Donc, pour lui, c'est maintenant qu'il faut réussir à convaincre le prophète Ansim de rester en ville. Pourquoi? Parce que s'il reste en ville, il pourra prétendre qu'il combat, mais il sera caché dans une pièce chez lui. Et il pourra dire, non, j'ai préparé des pièges, ou j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela, alors qu'en fait, il sera chez lui. Et il pourra entretenir, comme il l'a toujours fait, une correspondance secrète avec les idolâtres en leur disant, moi, je ne combats pas. Et les hypocrites parmi nous, un tel ne combattront pas. On va faire croire qu'on va combattre, mais on ne combat pas. Donc ne nous attaquez pas et laissez-nous la vie sauve à nous. Et pire encore, s'il veut ruser contre le prophète pendant la bataille, à l'extérieur, s'ils sont dans l'armée à l'extérieur face à face, il ne peut pas. Il sera au su et au vu de tous. Alors que dans la ville, il pourra, de manière cachée, faire des pièges aux musulmans, puisqu'il est censé être dans le camp des musulmans. Il pourra combattre de l'intérieur. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'en réalité, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il veut ça. Alors certains pourraient, on peut pousser le bouchon très loin et dire « Ouais, mais ça c'est ton analyse. Ce que je viens de dire là, c'est mon analyse. » Parce qu'on part du principe que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est un hypocrite. Donc on s'imagine que c'est pour ça. Non, ce n'est pas juste mon analyse. Parce que je ne l'ai pas encore raconté, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard ? Deux jours après la réunion, où Abdullah ibn Ubay ibn Saloul va prendre une décision capitale qui va prouver que cette analyse qu'on fait là, elle est véridique. On ne fait cette analyse que parce que nous, on sait ce qui va se passer après. Et qu'est-ce qui va se passer après ? Ça, je vous laisse en suspense. Je ne vais pas tout dire maintenant. Ala kulli hal, le prophète sallam, il a besoin qu'on le soutienne dans son idée, mais la plupart des compagnons qui prennent la parole, ils lui disent « sortons ». Et là, le seul qui ose prendre la parole, qui ose argumenter, c'est qui ? C'est quelqu'un dont tout le monde se méfie. À cette époque-là, on n'est pas encore sûr et certain qu'il est hypocrite, mais on se méfie de lui parce qu'on voit que son comportement n'est pas clair. À partir de quel moment les compagnons seront persuadés qu'il est un hypocrite ? Justement deux jours plus tard, par la décision qu'il va prendre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne lui suffit pas cette opinion, parce qu'il sait que ce n'est pas un homme sur lequel il peut se reposer pour asseoir sa décision et son autorité. Et ça aussi, ça montre, Yanni, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la sagesse dans la prise de décision. C'est-à-dire, même s'il a un bon argumentaire, une bonne cohérence, il sait que comme c'est un tel qui le dit, les gens ne seront pas rassurés. Il peut ramener tous les arguments du monde qu'il veut. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à demander, mais qui d'autre ? Dites-moi ce que vous en pensez. Et si, par exemple, des compagnons, des grands compagnons, connus comme Omar ibn al-Khattab, comme Abu Bakr Siddiq, Uthman, radiyallahu anhum ajma'in, ils auraient dit, nous, on veut rester ici, ils auraient sorti aussi leurs arguments, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu asseoir sa décision en cédant de ces noms, parce que ça, ce sont des compagnons qui ont la confiance de tous les autres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam attend. Et là, un compagnon, et pas n'importe lequel. Hamza ibn Abdel Muttalib, radiyallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va prendre la parole. Et pour dire quoi ? Il va dire « Wallazi anzala alayka al-kitab ». سأجالدهم بسيفي والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. Je jure par celui qui t'a révélé le livre. Je jure par Allah qui t'a révélé le Coran que je ne savourerai plus aucune nourriture qu'après les avoir frappés et fouettés avec mon sabre et mon épée à l'extérieur de Medina, à l'extérieur de la ville. Ah, Hamza ibn Abdel Muttalib, le brave, le courageux, il dit, dehors, allons leur montrer. Et ce qu'on a fait à Badr, on va le refaire maintenant. Et là, le professeur sallam se range du côté, non seulement de la vie de Hamza ibn Abdel Muttalib, mais surtout du côté de la vie de la majorité. Même si il n'est pas rassuré sur cette idée. Ou en tout cas, ça n'était pas son idée de base. Et c'est pour ça, vous savez tous à peu près ce qui va se passer à la bataille de Uhud, vous savez que finalement les musulmans vont perdre. Et que souvent la version qu'on nous rapporte, et elle est vraie, elle est authentique, c'est une des causes, c'est le fait que les archers ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont descendus du mont des archers alors qu'ils devaient protéger, et c'est à ce moment-là que la cavalerie pourra prendre à revers l'armée des musulmans. Et ça, c'est vrai. Sauf que très peu font référence aussi à la première, à la principale cause aussi, la première des causes, c'est celle-ci. C'est que les compagnons ont peut-être voulu aussi se précipiter, montrer yani, les muscles, alors qu'il fallait aussi faire preuve de stratégie à ce moment-là. En tout cas, c'est une discussion qu'il y a entre les historiens sur comment analyser cela. Et le professeur Hassem annonce aussi, dans cette réunion avec ses compagnons, il annonce une chose. Il dit « Wallahi ra'aytu fil manami khayra ». Non. « Laqad ra'aytu fil manam wa wallahi ra'aytu khayra ». J'ai vu quelque chose en rêve et je jure par Allah que je n'ai vu que du bien. Pourtant, le rêve qu'il va raconter et comment lui, il va le traduire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait peur. Il est inquiétant. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence comme ça. Il dit, mais je n'ai vu que du bien, parce que quoi qu'il arrive, c'est du bien. C'est en ce sens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le raconte parce que ses rêves, c'est pas comme n'importe quel être humain, les rêves du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont un message divin, sont une révélation divine. Il va dire, dans certaines versions, il a dit, Ra'aytu baqaran, et dans une autre version, il aurait dit Ra'aytu baqaran yuzbah. Ra'aytu baqaran yuzbah, j'ai vu des vaches se faire égorger. Dans la première version, Ra'aytu baqaran, j'ai vu qu'on m'a éventré. Dans la version, j'ai vu qu'on a éventré, il dit, et je pense que ça veut dire qu'un proche de ma famille va perdre la vie dans cette bataille. Nous, on sait que Hamza va mourir en martyr dans cette bataille, tué par Wahshi. Dans l'autre version, Ra'aytu baqaran yudbah, j'ai vu des vaches être égorgées. Il va dire, je le traduis, je l'interprète par le fait qu'un groupe parmi mes compagnons vont être tués. وَرَأَيْتُ فِي ذُبَابِ سَيْفِي فَلْمَا. Et j'ai vu sur la pointe de mon sabre, de mon épée, فَلْمَا. فَلْمَا, c'est quand on a frappé trop fort avec une épée sur quelque chose d'extrêmement solide et que ça fait casser un petit bout. Hein? L'épée, elle est édentée. فَلْمَا, c'est ça. Donc j'ai vu sur le bord de mon épée, Al-Thalm. Elle va dire, selon certaines versions, elle va dire qu'il le traduit par le fait que lui-même pourrait être amené à être blessé dans cette bataille. Ce qui va être le cas, comme on va le voir. Et il va dire, Wa inni ra'aytu anni qad adkhaltu yadayya fi dir'in hasina wa awwaltuha al-Madina. Il va dire, et j'ai vu en rêve que j'ai rentré mes mains dans une armure extrêmement solide. Yani, je me suis habillé d'une armure extrêmement solide, protectrice. Et il va dire, et je l'interprète comme étant la ville de Médine. Cette armure, c'est la ville de Médine. La ville de Médine va nous protéger. Mais peu importe, on reste à l'intérieur ou on va à l'extérieur, ce qui va nous protéger, c'est la ville de Médine. Et en effet, même en allant à l'extérieur, ce qui va les sauver et les protéger, c'est la ville de Médine, comme on le verra. Non. Fa'ala kulli hal, le professeur sallam décide, et ça va prendre 2 à 3 jours selon les versions, de rassembler et de préparer une armée et de l'organiser, cette armée, et ensuite de sortir à la rencontre des idolâtres qui sont toujours à Aïnaïn et qui attendent que tout le monde se rassemble pour peaufiner leur plan d'attaque sur la ville de Médine. Mais finalement, ça ne va pas se dérouler à Médine, ça va se dérouler à la montagne de Uhud, en face de la montagne de Uhud, là où l'aura décidé le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et donc ensuite va avoir lieu la bataille, etc. Et en chemin, yani, nous, on doit encore parler en détail de l'armée du professeur sallam, ça on le verra une prochaine fois, inshallah. comment elle va être organisée. Et aussi en chemin, lorsqu'ils vont sortir, il y a les hypocrites avec eux. Le chef des hypocrites dont on a parlé tout à l'heure, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, sera là. Et là, il va prendre une décision sur le chemin en allant vers Uhud, qui va terminer de convaincre les compagnons et le professeur sallam qu'il faut absolument se méfier de cet homme et que son islam n'est peut-être pas aussi sincère qu'il le prétend. Et tout ça, c'est ce que nous verrons bi'nillahi tabaraka wa ta'ala la fois prochaine, mais la fois prochaine elle ne reviendra qu'après la période estivale. Et la semaine prochaine je suis en déplacement, donc on ne reprendra de toute façon qu'après la pause estivale, c'est-à-dire à partir du mois de septembre inshallah ta'ala. On communiquera sur le, comme d'habitude, sur les groupes WhatsApp, Telegram ou Instagram ou le Maratage d'Akshi, sur Internet, sur les réseaux sociaux, les comptes de la mosquée, on communiquera la date exacte de la reprise, Inch'Allah, du cours de la biographie du professeur sallam. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka.